Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Tout commence en octobre 2013 quand Christophe M, salarié chez Tefal, trouve un document dans une photocopieuse indiquant l'intention de la direction de le licencier sans motif sérieux. Lui fixer des objectifs inatteignables, suggère le courrier. L'informaticien qui demandait le paiement d'heures supplémentaires voit, je cite, « le ciel lui tomber sur la tête », du moins c'est ce qu'il déclare lors de son procès. L'homme cherche alors d'autres documents pour se défendre et tombe sur des mails concernant le travail de Laura Pfeiffer. Elle, c'est une jeune inspectrice du travail. En janvier 2013, lors d'un contrôle chez le même Tefal, elle a justement découvert que l'accord sur les 35 heures signé en 2000 avec les syndicats était caduc et qu'il fallait le renégocier. En avril de la même année, le directeur départemental du travail, son supérieur hiérarchique, la convoque et lui demande de revoir sa position sur cet accord RTT de Tefal. Il exerce sur elle une pression insistante, l'accuse de vouloir mettre le feu à cette grosse entreprise qui fournit un grand nombre d'emplois dans la région. Fort déstabilisée, Laura Pfeiffer se met en arrêt maladie. C'est à ce moment-là que Christophe M la contacte pour lui communiquer le contenu des courriers qu'il a trouvés. Ce sont des échanges entre la direction de l'inspection du travail de Haute-Savoie, la direction de Tefal et la préfecture. Les trois cherchent de conserve une solution pour se débarrasser de Laura. Il est question de la muter, de lui confier d'autres tâches sur d'autres territoires, dans d'autres entreprises. Laura Pfeiffer est scandalisée, elle décide de diffuser ses documents dans la presse. À l'initiative du procureur de la République, elle est alors poursuivie pour recel de documents et violation du secret professionnel, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'inspection du travail. Le salarié, qui est également lanceur d'alerte, a été retrouvé et il est aussi poursuivi en justice. Le tribunal correctionnel d'Annecy les condamne à 3500 euros d'amende avec sursis. Ils perdent en première instance et en appel. 5 ans après le début de cette histoire, le 19 octobre 2018, la Cour de cassation annule finalement la condamnation de l'inspectrice du travail. Il est prévu qu'elle soit rejugée à la lumière de la loi, protégeant les lanceurs d'alerte. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, Inès Leroux nous fait rencontrer deux autres lanceurs d'alerte qui, comme Laura Pfeiffer, ont changé la face du monde à petite ou à moyenne échelle. Raymond Avrillier et Vincent Hénault, c'est tout de suite.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
La corruption naît de la passivité, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des conseillers généraux, des députés, du procureur de la République et de la justice, et puis la passivité de la presse, et même la passivité des citoyens, puisqu'il y a une seule personne qui a porté en droit, on a quand même 150 000 habitants à l'époque à Grenoble, une seule personne qui porte en droit la contestation du dossier de l'eau.
C'est vous, la personne ?
C'est moi qui portais le dossier, oui.
Grâce à mon journal breton, tenu dans Les Pieds sur Terre de janvier à juin 2016, j'ai été invitée au salon des livres et des alertes à Paris en novembre. J'y ai rencontré Raymond Avrillier, qui m'a inspiré cette série d'émissions sur de simples citoyens qui font changer le monde. Raymond Avrillier, aujourd'hui retraité, a réussi à faire arrêter Superphénix, une centrale nucléaire expérimentale défaillante, à faire supprimer les publicités d'Eco dans sa ville, Grenoble, à révéler l'affaire des sondages de l'Élysée sous Sarkozy. Nous vous raconterons tout cela dans le prochain épisode, car aujourd'hui, il explique sa première victoire, la mise à jour d'un système de corruption dans sa ville.
Monsieur Alain Carignon a été élu en 1983.
L'histoire commence en 1983 avec le ravissement inattendu de la mairie de Grenoble par un jeune loup du RPR, Alain Carignon. Les adversaires du maire, dont fait partie Raymond Avrillier, associatif écologiste, dénoncent déjà les moyens démesurés et déloyaux de sa campagne électorale. Mais aucun d'entre eux ne mesure encore à quel animal politique ils ont réellement affaire.
En 85, il devient président du conseil général de l'Isère. En 86, il va devenir ministre de l'Environnement. Donc, il tient la ville, le département et les rapports avec l'État, donc avec les préfets qui en Isère sont chargés de représenter l'État dans le département et normalement de contrôler les collectivités territoriales. Mais le préfet va-t-il contrôler un maire qui est par ailleurs ministre, dont il est le représentant dans le département? Donc il y a un système qui se ferme énormément. C'est le début des années qu'on vit nationalement comme étant les années tapis, les années des moi-jeux entrepreneurs. Et pendant toute cette période, 83-87, M. Carignon va développer une thèse qui est celle de la ville maigre. C'est-à-dire que tout ce qui peut être délégué au privé doit être délégué au privé. L'assainissement, les déchets, le chauffage urbain, les transports, les parkings, le stationnement, télévision par câble et autres liaisons câblées, l'affichage urbain, et j'obtiendrai que ça soit annulé parce que c'était en fait, ça aurait dû être des marchés publics, mais par exemple Deco, tout l'affichage Deco était illégal à Grenoble. Bref, tous les services publics vont être petit à petit délégués au privé. Et donc, cette période est, pour certains d'entre nous, heureusement, on est quand même un petit collectif assez soudé, assez efficace, une période d'inquiétude parce qu'il y a peu de mouvements de contestation réels. Il y a beaucoup d'incantations, mais peu de passages à l'acte. Et nous décidons, avec notre association Démocratie, Écologie, Solidarité, de mettre en place une action un peu plus soutenue à partir des années 87-88.
En 1988, Alain Carignon brigue un nouveau mandat et place sa campagne électorale sous le signe de la transparence. Son comité de soutien s'installe, je cite, « dans un lieu agrémenté de baies vitrées et ouvert à la lumière ».
Et nous sommes très étonnés par l'ampleur des moyens qui sont mis en œuvre pour cette campagne. Campagne d'affichage sur les panneaux publicitaires, des journaux Dauphiné News qui se mettent en place pour la campagne. Et nous commençons à travailler sérieusement en regroupant les documents de publicité, en notant qui a financé telle plaquette, qui est l'imprimeur du document. Tiens, comme par hasard, c'est celui qui a eu le marché des réfections routières du département.
Un journal en particulier attire l'attention du petit collectif dont fait partie Raymond Avrillier. Il s'agit du Dauphiné News, revue qui se présente comme supertonique et indépendante, mais qui a été créée à la veille de la campagne électorale et dont certains numéros sont distribués gratuitement à 150 000 exemplaires, c'est-à-dire à l'ensemble de la population grenobloise. Ils enquêtent alors sur les sociétés qui détiennent ce journal.
Nous découvrons que c'est un holding de plusieurs sociétés qui se sont créées à Grenoble, mais qui se sont transférées ensuite à Paris, pour lesquelles il y a eu très clairement des directives comme quoi elles ne devaient durer que le temps de la campagne électorale.
Campagne électorale, au terme de laquelle Alain Carignon est réélu dès le premier tour. Mais il devra cette fois compter avec Raymond Avrillier, élu, lui, comme conseiller municipal écologiste.
Je suis élu avec ma collègue Geneviève Jauneau. Et là, devenant conseiller municipal, je suis toujours le porteur pour notre collectif des informations qu'on a glanées avant les élections. Mais là, la vigilance va se mettre en place à l'intérieur du conseil municipal. Et donc, très rapidement, M. Carignon présente une décision de déléguer à la Lyonnaise des Eaux la régie municipale de l'eau et de l'assainissement, qui était une régie centenaire, très efficace, avec une eau superbement pure, et des réseaux très bien entretenus, qui du coup étaient un service public rentable au sens de l'intérêt général, et non pas rentable pour des actionnaires.
C'est l'émoi parmi le personnel municipal et les habitants qui débraye et manifeste. La régie municipale représente une centaine d'emplois et rapporte chaque année 7 millions à la ville. Le maire les rassure. Aucune décision ne sera prise durant l'été. Ils peuvent partir en vacances tranquilles. 15 jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1989, le maire délègue l'eau de Grenoble à une entreprise prétendue locale, mais en réalité filiale de la Lyonnaise des Eaux. La décision est illégale, car elle augmente démesurément les tarifs pour les usagers. Raymond Avrillier et sa collègue Geneviève Genot alertent en vain.
Pas d'écho du côté de la presse, puisqu'elle avait toutes les publicités de la mairie et du reste. Et on n'avait pas non plus d'écho du côté du préfet, chaque fois qu'on sollicitait. Donc, en l'occurrence, là, ils avaient des directives pour ne pas contrôler ce que faisait M. Carignan, que ce soit à la mairie de Grenoble ou au conseil général. Un seul préfet a agi, il est resté 6 mois. Les préfets, ça se change.
Raymond Avrillier et son collectif écologiste commencent une enquête. Le premier fil qu'ils suivent est donc celui de la campagne électorale démesurée d'Alain Carignan.
Qui a financé, avec l'idée qui a financé cette campagne électorale ? Le deuxième fil, c'est pourquoi cette privatisation tout de suite après les élections ? Et donc, il va falloir un certain temps pour, en tirant ces deux fils, se rendre compte qu'ils se rejoignent. Et pour ce faire, il va y avoir un travail d'investigation assez complexe pour suivre les comptes des sociétés qui ont été créées pour la campagne électorale et de suivre les comptes de la Lyonnaise des Eaux et de ses filiales et qui avaient été transférées de Grenoble à Paris, puis de Paris à Nanterre et qu'il fallait suivre à l'époque en faisant les trajets en train pour aller au greffe du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre pour suivre le devenir de ces sociétés. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Et donc, en mars 93, je reviens avec la preuve que la Lyonnaise des Eaux, qui a bénéficié de la privatisation du service de l'eau en 1989, vient de renflouer les sociétés qui avaient porté la campagne électorale de M. Carignan en 1988-1989. Et donc, apparaît assez clairement un lien entre la décision publique et les affaires privées. Ces informations sont parvenues à un juge d'instruction à Lyon, qui gérait les dossiers similaires au niveau de M. Noir à l'époque, les affaires Noir-Botton. C'est le juge Courroie. Et les choses s'accélèrent début 94, en février 94. Il va avoir l'intelligence de chercher ce qui à l'époque était obligatoire pour parler de corruption, où est le pacte de corruption. In fine, c'est lors d'un dîner au Conseil Général, avec le président du Conseil Général, qui était en même temps maire de Grenoble, que s'est décidé en 1987, donc bien avant 1989, le fait que la Lyonnaise des Eaux aurait, après les élections municipales, bénéficierait de la privatisation de la délégation du service public de l'eau. Et donc, il a démontré que ce dîner était le dîner au cours duquel avait été scellé le pacte de corruption qui consistait à financer la campagne électorale avant en échange d'obtenir la privatisation après les élections. Et le Conseil d'État, in fine, en 1997, ne va retenir qu'une chose, c'est que le maire a trompé les conseillers municipaux sur la portée des décisions qu'ils étaient amenés à prendre. Pourquoi il les a trompés ? Parce qu'en fait, la motivation de cette délibération était la corruption, était le fait qu'il avait obtenu de l'argent de la Lyonnaise des Eaux pour ses affaires privées, pour faire ses voyages en bateau, pour avoir tous ces voyages en avion qui étaient payés, pour avoir un appartement boulevard Saint-Germain à Paris, pour avoir son avocat, Jean-Louis Duterret, qui était payé par la Lyonnaise des Eaux, etc. C'est une des rares fois en France où une révélation d'un système corruptif est faite par des citoyens et des citoyennes actives, et c'est une des rares fois où la corruption a pu être démontrée. Ça va intervenir en 1994. Alain Carignan a été mis en détention. Il est resté près de 3 ans en prison. ainsi que d'autres corrompus et corrupteurs et complices qui ont fait un peu moins. C'est une durée longue, hein. Mais il a dit quelque chose de juste, c'est « Pourquoi moi ? Je suis le seul ?» Alors que c'était, et cela reste, une pratique très courante, et peu d'affaires ont été sorties similaires. Et donc, nous sommes assez fiers à Grenoble, parce que c'est une des rares villes où on a révélé que ces décisions étaient prises de manière étrangère à l'intérêt général. Pris un par un, on ne s'aperçoit pas qu'on se fait avoir, et donc il faut s'associer. Et donc en portant le dossier à ce niveau, on a pu démontrer, ne serait-ce qu'en remunicipalisant l'eau de Grenoble, de 2000 à 2008, on a fait faire 20 millions d'euros d'économies aux usagers.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc Vincent Hainaut, j'ai aujourd'hui 45 ans. Je suis manipulateur en radiologie.
Je retourne en Bretagne où je vis depuis un an maintenant avec l'idée de revoir Vincent Hainaut, rencontré lors de mes enquêtes sur les algues vertes. Lui aussi a connu quelques succès dans ses combats pour l'intérêt général.
En 2008, j'ai décidé de m'investir de façon militante pour l'écologie sur la commune de Fouesnant. Alors je voyais et j'entendais beaucoup de choses, et notamment sur le non-respect de la loi littorale. Dans les boîtes aux lettres, on avait reçu un tract anonyme d'une dizaine de pages qui dénonçait justement le clientélisme du maire. Quand on suit les histoires, je vais prendre l'histoire à Grenoble avec Carignon, les histoires avec à Levallois avec Monsieur Balkany, j'avais un peu le sentiment voilà qu'on était un peu aussi dans ce schéma-là, et je me dis il faut qu'il y ait des gens à un moment donné qui s'investissent, et à force de me poser des questions, je me suis dit il faut que j'aille voir de plus près.
Vincent se lance alors dans la bataille pour la réouverture du sentier de douaniers de la petite station balnéaire de Begmail. Sentier privatisé par les riches propriétaires le long de la côte, parmi lesquels on trouve les Champagnes Tétinger, l'homme d'affaires Robert Lascar et la famille Bolloré.
Alors en fait, le long de ces 1,2 km, ce sont des falaises et de très jolies criques. Et donc les riverains bénéficiaient, ils avaient à la fois donc, le point de vue privatif plus la petite plage privée. Et donc aujourd'hui, le sentier côtier effectivement a permis à tous les marcheurs, tous les gens qui habitent à proximité, de pouvoir bénéficier et du point de vue et de l'accès aux plages publiques, mais qui étaient de fait privatisées.
En 2008, quand Vincent s'intéresse au dossier, la SPF, Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, se bat juridiquement depuis 32 ans pour la réouverture du sentier.
Et ce dossier que je suivais depuis des années, comme citoyen, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. On a eu 5 enquêtes publiques pour le même dossier, et donc on a financé 5 enquêtes publiques pour ce sentier côtier-là, ce qui est quasiment du jamais vu en France. Lors de chaque enquête publique, le préfet proposait de modifier la servitude. Alors, à plusieurs motifs, un motif de sécurité. Alors, surtout, la préservation de l'intimité des riverains. Voilà, c'est-à-dire que, pour ne pas gêner ces riverains, du coup, ils proposaient de descendre sur la plage et éventuellement de bétonner une partie de la plage pour faire un sentier au niveau de la mer. Sauf que ce sentier-là n'aurait jamais été praticable, puisque à marée haute, la mer le recouvrait. Et en plus, avec des problèmes de sécurité importants, parce que vous imaginez une famille qui s'engage sur un péré le long de la mer avec des vagues qui viennent frapper ce péré, on aurait forcément eu un jour ou l'autre, on aurait eu un drame. Donc un jour, j'ai pris à marée haute, je suis allé avec mon gilet de plongée stabilisé, un appareil photo, et donc je me suis laissé porter par les vagues de façon à prendre les photos pour prouver au préfet que son projet n'est pas à la route. Et lorsque nous avons été reçus à l'époque avec la SPF par les services de la préfecture, devant les photos, ils ont bien été obligés de reconnaître que c'était une erreur. Ils en étaient arrivés à un moment donné à vouloir creuser un tunnel pour passer sous un rocher de façon à ne pas rentrer dans la propriété. Voilà. Avec des coûts évidemment pharaoniques dont on ne sait même pas qui aurait pu les payer. Et en plus, ça aurait favorisé l'érosion du trait côtier Donc là, pour le coup, en plus, la falaise se serait écroulée. Donc les enquêtes publiques successives, ça a été une succession justement de solutions loufoques, farfelues, mais toujours au profit des riverains. Et la dernière enquête publique, par contre, donc la cinquième enquête publique, ça a été la plus crédible en fait, donc celle de 2011. Mais dans les faits, les propriétaires avaient continué à mettre les haies, les barbelés, de façon à empêcher le passage. La population était ulcérée, et donc j'ai fait le tour de la question. Juridiquement, on peut pas faire grand-chose de plus parce que tout a été fait. J'ai contacté donc un avocat et je lui ai expliqué la situation. Et l'avocat, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je risque à ouvrir le sentier côtier? Et l'avocat m'a dit, bah, à partir du moment où tu restes dans la bande des 3 mètres, bah, tu ne risques rien. Donc en 2014, j'ai décidé avec d'autres personnes de l'ouvrir. Donc de l'ouvrir à la pince Monseigneur et au pied de biche. Et donc au mois d'octobre 2014, nous avons appelé un rassemblement. Alors évidemment, quand c'est comme ça, vous avez une grosse pression. C'est-à-dire que j'ai été convoqué en gendarmerie, qu'on m'a expliqué que ce que je comptais faire n'était pas bien. Sachant que j'avais le droit avec moi, de toute façon c'est maintenant ou jamais, et ben on y est allé. Et donc il a fallu, sur chaque propriété effectivement, il a fallu cisailler, il a fallu ouvrir le passage. Donc il y avait à peu près une centaine de personnes à suivre ce rassemblement. Et nous étions bien évidemment accompagnés par la gendarmerie qui, derrière nous, photographiait, entre guillemets, tous les dégâts que nous avons réalisés avec la pince Monseigneur. Sauf que nous sommes restés dans le droit, c'est-à-dire que nous sommes restés sur la certitude de droit des 3 mètres. Et donc, on a ouvert les 1 km de sentier côtier. Ça a été bien évidemment bien plus compliqué que ce qui était prévu. Et donc, on était un peu sous-équipé par rapport à l'ampleur de la tâche à accomplir, notamment avec des palissades en béton armé qui ont beaucoup résisté. Et je me suis même demandé si on arriverait à aller jusqu'au bout des 1200 mètres. Mais
alors, avec quels outils vous avez démonté du béton armé?
À la masse, tout simplement. Voilà. Et c'est la volonté qui fait qu'à plusieurs, on y est arrivé. Alors là où ça s'est compliqué, c'est que bien évidemment une partie des riverains a déposé plainte contre l'organisateur, comme les Champagnes Tétinger par exemple. Étant l'organisateur, j'ai été convoqué en gendarmerie à 2 reprises, et où il a fallu que je reconnaisse effectivement que les barbelés et les haies qui étaient sur la servitude de passage et qui sont donc illégales, c'est bien moi qui les avais cisaillées, ce que j'ai reconnu bien évidemment. Indépendamment de ça, j'ai aussi déposé plainte contre les propriétaires, puisque j'en avais le droit, qui obstruaient le passage. Résultat des courses, la plainte des propriétaires a été classée sans suite, ce qui est légitime dans un état de droit, mais par contre, ma plainte a aussi été classée sans suite, ce qui interroge par contre, puisque le droit était pour nous. Mais le sentier était ouvert. Une précision, lorsque nous sommes passés dans la propriété Tétinger, nous avons inaugurer le sentier à l'aide non pas d'un champagne, mais d'une bouteille de cidre locale, bio. Alors, c'est un sentier, effectivement, qui est très emprunté et très apprécié, parce que c'est clairement l'un des plus beaux, on peut presque dire, du Finistère. C'est vraiment une ouverture sur toute la baie. On a reçu plein d'encouragements, de remerciements pour avoir fait ces actions. Et puis, surtout, ça a ramené de l'activité au centre-ville de Baie-Mail qui, l'hiver, vivotait. Un sentier côtier, ça marche toute l'année. Il y a sur ce sentier-là un point de vue qui est magnifique et qui permet une ouverture sur toute la baie. Et Vincent Bolloré, lui, le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il a continué de se privatiser alors qu'il n'y va jamais. Là où c'est drôle, c'est que dans l'enquête publique, ils ont justifié la fermeture de ce point de vue pour protéger les promeneurs parce que ça présentait un danger. C'est-à-dire que partout où vous allez quand vous vous baladez, il y a des points de vue forcément qui sont un peu en aplomb et donc qui ont potentiellement qui peuvent être dangereux. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut fermer en France tous les points de vue qui sont dangereux. Et donc là, c'était la motivation ne tient pas la route. Quand on va sur place, on se rend bien compte que c'est simplement une privatisation d'un endroit qui est certainement l'un des plus beaux du sentier côtier. Et donc on a ouvert le sentier côtier, et puis un an après, un club de randonnée, de façon totalement normale, hein, légitime, a décidé d'emprunter ce sentier côtier que nous avions ouvert avec beaucoup de mal un an précédemment. Et donc pour rappeler donc aux randonneurs que tout ça, ça n'était pas tombé du ciel et qu'il a fallu se battre pour qu'ils puissent marcher sur ce sentier, on avait mis des petits panneaux humoristiques. Par exemple, j'en cite un, chez Vincent Bolloré, donc qui s'est privatisé un point de vue, on avait marqué « point de vue imprenable », puisqu'effectivement, on ne pouvait pas y accéder, donc « point de vue imprenable ». Et donc du coup, voilà, plein de panneaux humoristiques comme ça. Et du coup, c'est très rapidement, donc les gendarmes sont intervenus, et donc on saisit le matériel, et à ma grande surprise, en fait, j'ai été convoqué à la gendarmerie de Fouesnant quelques jours après. Et donc là, je me suis vu signifier ce qu'on appelle un rappel à la loi pour une infraction au code de l'environnement, à savoir, donc le motif retenu, c'est publicité aux abords d'un menhir classé monument historique.
C'est quoi ce menhir ?
Alors c'est un menhir qui a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été couché par les Allemands, donc c'est un menhir qu'on ne voit pas, et qui est dans une propriété privée. Et dont le propriétaire, normalement, aurait dû d'ailleurs, puisqu'il est classé monument historique, le faire remettre à la verticale et au moins le rendre visible par le grand public, chose qu'il n'a jamais faite. Donc lui est en infraction, donc le menhir on ne le voit pas, et moi on m'a trouvé comme motif voilà, cette fameuse publicité aux abords d'un monument historique.
Et vous avez été condamné à quoi ?
Alors c'est un rappel à la loi, c'est-à-dire que pendant 3 ans, si je suis pris avec d'autres actions qui ne respectent pas la loi, je peux être déféré devant le parquet. Et par la suite, donc le maire de Fouesnant, toujours dans son opération de communication, a médiatisé en disant que c'était grâce à son action que le sentier côtier avait été ouvert, alors que les témoignages rapportés nous disaient que son discours était à l'époque « Tant que je serai maire, vous inquiétez pas, le sentier ne passera jamais ». Et sans la mobilisation du mois d'octobre 2014, le sentier serait toujours fermé. Et c'est bien une mobilisation citoyenne qui a permis l'ouverture de sentiers côtiers.
C'était Deux lanceurs d'alerte, un reportage d'Inès Leroux réalisé par Anne Kobilac avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Sachez que depuis la première diffusion de ce reportage en décembre 2016, le service d'assainissement et de distribution de l'eau potable est toujours public à Grenoble et qu'il emploie 370 personnes. Merci à Raymond Avrillet, à Vincent Hainaut, à Florian Joutel et à Sébastien. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Zoé Marie Roulier, notre stagiaire, et Sandrine Chaperon n'est jamais très loin.